Chapitre 3. Malgré la largeur du paquebot, le salon Commodore, très long, était relativement étroit, la compagnie ayant gracieusement prodigué l'espace aux cabines. Toutefois, on avait encore ses coups d'effrange dans ce restaurant où se prélassait une table babylonienne, toute neigeuse de linge damassé, prismatique de cristaux et chargée d'égayantes victuailles. Reyes, tatillon et satisfait, eut bien le temps de choisir sa place, ni trop près ni trop loin de la descente qui donnait passage à toutes les brises de la rade, en face d'une pyramide de chasselas de la Concepción. Il échangea quelques poignées de main avec les survenants toboudongais qui s'installaient en habitués et se plongea dans la lecture attrayante du menu. Et bientôt tinta dans le Commodore une réjouissante musique de fourchettes, de cuillères et de couteaux. Le toboadonga, élégant, se consolait des sinistres pâtés de la quinzaine. Averti par ce petit concert, des dames d'allure peut-être un peu trop digne et maniérée, de styles divers mais toutes somptueusement attifées et flagrantes de parfums capiteux, quelques-unes peintes et même stuquées avec goût, sortirent une à une de leur cabine. Elles se mirent à table discrètement mais bien en vue, commandèrent leur déjeuner aux camarades sans éclat de voix, mais du ton résolu de femmes exagérément distinguées, habituées à être vite et bien servies, et commencèrent à manger avec de petites mines de créatures éthérées. Bientôt, elles se lassèrent d'efforts si matériels, levèrent les yeux, sans doute pour chercher le ciel, et ne découvrirent que les panneaux relevés de la claire-voie et la tente beige protégeant le pont. Alors elles rabaissèrent leurs regards désappointés et s'aperçurent de la présence des caballeros étrangers. Tous leurs anciens rêves d'adolescentes durent être réalisés du coup, bien certainement, car elles ne purent s'empêcher de couler de longues et involontaires œillades pleines de fières réserves et de passions tristes dans la direction de chacun des nouveaux venus. Trop évidemment, toutes les aimèrent tous et avec quelle sombre violence. Mais il fut également clair qu'elles mourraient plutôt que de parler les premières. Il fallut bien que les caballeros vinssent à leur secours. L'humanité le commandait aussi bien que la galanterie. Les tendres colombes se rassurèrent et il se forma bientôt des groupes sympathiques. Le mince Percy Readymade de la London and Callow Bank se familiarisait avec une forte métisse équatorienne des plus bas années. Rosendo Rocochrea, courtier indigène de Toboadongo, dont l'épiderme avait le poli et la couleur d'un marron d'Inde, s'était pris d'une vive affection pour une santiagaise assez rose. Le grand bourgeois, Klopf, semblait au mieux avec une criquette panaméricaine de type chinois. Tous, le New Yorkais Artemus, North Little Boy, négociant omnirescibili, l'ex-colonel Trueneau des douanes chiliennes, le commandeur Zumalagoaberi, concessionnaire du Cercle, le docteur Kumersindo Bajadero, vétérinaire de l'armée, etc., etc., était agréablement pourvu. Le majordome au du bord écouta sans difficulté quelques décalitres de champagne suisse, de cumel beige et d'anisette brémoise. Peu à peu, les séduisantes dames peintes et leurs cavaliers se retirèrent, des portes de cabine battirent faiblement. D'autres charmeuses inconsolées avaient déjà quitté le Commodore, jugeant qu'elles étaient trop, et Benigno, tout à l'heure si pressé d'atteindre le Zenana flottant, se vit seul à table avec deux fort jolies femmes, d'une imperceptible maturité qui lui faisait face et le dévorait des yeux. Il était dans une assez cruelle indécision, presque également attiré par les deux accueillantes princesses. car si les préférences momentanées l'incitaient à jeter son dévolu sur cette blonde Yankee, article exceptionnellement rare, blanche, grasse, poupine, belle, d'énormes prunelles bleues et d'une carnation florale qui devait très peu de choses à l'art, une voix secrète lui parlait en faveur de sa voisine, une espagnole de la péninsule, sans doute, en jugé par son teint assez clair, sa chevelure brun châtain plutôt que noire et le hardi regard de ses yeux sombres, nullement languissants comme ceux de la plupart des hispano-américaines. Il sentait, sans pouvoir bien s'expliquer son impression encore vague, que celle-ci se révélerait bien plus semblable à son type d'amoureuse. Il y avait en elle, songea-t-il absurdement, un mystère, comment dire, agréable, qu'il était peut-être sur le point de deviner. Les deux femmes continuaient à le dévisager en parlant, pour la forme, de choses insignifiantes. Bien qu'il se fût montré envers elles d'une plus que louable munificence et les eût imbibées de champagne, il paraissait cependant si taciturne, affligé d'une élocution si difficile, qu'elle s'adressait à peine à lui. Elle commençait à se figurer qu'elles avaient affaire à un monsieur plus vicieux que nature, mais pas fier de lui-même et lent à dévoiler ses vilaines inclinations. Tant mieux, il serait généreux en conséquence. Et tout en papotant, elles évitaient de le troubler par une interpellation trop directe dans sa confection d'une phrase délicate par laquelle il les initierait à ses petits projets malpropres. Elles croyaient le voir venir. Toutefois, comme il tardait vraiment trop, et comme son mutisme et sa physionomie contractée finissaient par leur causer une sorte d'irritation nerveuse à peu près insupportable, elles se concertèrent rapidement à voix basse, et ce fut l'Américaine, fille d'une race pudique et riche en circonlocution, qui lui proposa, en termes décents, quelque chose de très vif. Reyes eut une seconde d'éblouissement. Oh, la gamme des chairs pâlement brunes et des chairs blondes, laiteuses, subrosées. Mais, subitement, il fut pris d'une rage de dégoût. Puis une honte qu'il ne ressentait pas pour lui-même, mais bien pour l'une des femmes, une seule. Une honte furieuse et comme glaçante le fit frissonner. Il sut que c'était l'Espagnole qu'il voulait, et nul autre, et tout de suite. Sa figure se fit si mauvaise, si menaçante, que la blonde poupine devina sa pensée entière sans la moindre explication, et s'enfuit apeurée en jetant sa serviette sur la table à toute volée, non sans avoir gratifié Benigno d'une épithète de slang cueillie à n'en pouvoir douter dans les jardinets de Five Points ou dans les riches serres de Sin Sin. Reyes demeura seul avec la péninsulaire, point d'interrogation, qui eut un sourire satisfait, un grand sourire blanc, qui fit plus rouge les arcs charnus de sa bouche exquise. Les narines roses palpitèrent légèrement comme d'orgueil. Ses yeux semblèrent s'élargir et prirent l'éclat qu'auraient des diamants noirs s'il y avait de vrais diamants noirs. Et Benigno se félicita lui-même. Ben, « J'ai bien fait d'écouter la voix. Je n'avais pas compris tout de suite, mais à présent je vois qu'elle ressemble un peu à ma Pepa. Je pourrais donc me faire des illusions. Et le mirage de ce matin avait sa raison d'être. J'étais averti qu'une sorte de reflet de la seule femme aimée venait jusqu'à moi. » Et il adressa quelques mots à l'Espagnol, qui se leva, non sans avoir signifié son acquiescement. « Con mil amores » avait-elle dit. Benigno en eut un léger haut-le-corps et la regarda quitter son fauteuil, se remettre sur pied d'un coup de rein comme dansant, suivi d'une prompte et souple torsion de la taille et des hanches, qu'il crut bien reconnaître. Encore qu'elle parlât espagnol avec un accent neutre qui ne pouvait guère révéler sa province natale, la locution qu'elle venait d'employer était presque exclusivement ténérifienne. Il ne sut s'empêcher de l'interroger. « Mais voilà une petite phrase qui me ferait croire que vous êtes islénia. »« Vous connaissez les Canarias ?» s'écria-t-elle d'un ton vaguement alarmé. « Oh, très peu, se hâta de répondre Benigno. J'ai fait jadis escale à Santa Cruz de Tenerife et passé 2 jours dans l'île. »« Ah, tant mieux, » fit-elle involontairement. Elle rougit et se reprit. « Je voulais dire que nous sommes si loin de mon pays que je ne vois guère d'inconvénient à vous avouer que je suis Tiner Fesiva. Ah, de Santa Cruz, de la Laguna, du Puerto ?» Elle perçut l'hésitation, et cette fois devint très pâle, se troubla. « Du Puerto, mais vous me connaissez ? Oh non, ce n'est pas possible. Ne me dites pas cela. Mais comment voulez-vous que je vous connaisse, puisque je n'ai jamais été qu'à Santa Cruz ? Non, je vous parle du Puerto, comme je vous citerai Icod, Guimar ou Granadilla, des noms que j'ai entendus, rien de plus. » Mais il était lui-même très ému. Il avait la presque certitude qu'il voyait Pepa devant lui. Et oui, aveugle. Il n'y avait jamais eu deux Pepa dans le Puerto. C'était elle. C'était elle, changée, mais pas comme il l'aurait cru. Les traits demeuraient très semblables à ce qu'ils avaient été jadis. L'expression seule différait. La physionomie avait dû se modifier dans un sens, tandis que ses souvenirs à lui l'altéraient dans un autre. C'était pour cela qu'il ne l'avait pas reconnue tout de suite. C'était Pepa, plus forte, plus grasse, mais non empâtée, incroyablement jeune de ligne pour ses 38 ans. Cette pose de cou, ce port de tête n'avaient pas leur pareil. Le teint roseté s'était ambré un peu tout en restant transparent, mais la bouche n'avait pas varié. Ces arcs rouges délicatement charnus n'avaient rien perdu de leur grâce grisante. La courbe du nez caméen s'était peut-être finement accentuée. Le grain de beauté semblait une idée moins noire qu'avant. Cette fossette s'était légèrement comblée, mais le dessin de tout le visage gardait sa fermeté, son style propre. Le seul grand changement s'était passé dans les yeux. Il se fit violence pour ne pas lui crier. « Mais oui, je te connais, mais je t'aime depuis des années. Si je n'ai compté pour rien dans ta vie, tu as tenu une place immense dans la mienne. » Et, assez vilainement, il n'éprouvait aucun chagrin de la chute de la seule femme qui eût incarné toutes ses aspirations amoureuses. Au contraire, et il s'en haïssait, en concevait pour lui-même un mépris violent, sans pouvoir se contraindre à penser avec moins de bassesse. Ah, qu'il eût été s'avisé de dire à la Pepa d'antan une parole insolemment tendre, alors qu'elle jouissait du frais de la lumière nacrée du soir à la fenêtre de sa maison rose. La Nina lui fait jeter dans le ruisseau par quelques péons canariens, semblables à la brute indienne qui pensait aujourd'hui un vieux cheval dans certaines écuries de Tobandongo. Qu'elle fût seulement devenue pareille à la grosse Pepa, bien mariée, trop bien rentée, croulante, abrutie et béate, imaginée ce matin même, et qu'elle eût eu l'invraisemblable, l'impossible caprice de s'offrir à lui. Oh, la déception aggravée d'un curable dégoût! Dans les circonstances actuelles, au contraire, tout allait le mieux du monde. Elle n'avait aucune envie de se refuser, parbleu, et, conservée par les soins de minutieuse coquetterie qui exigeait impérieusement sa profession jusqu'à un certain point dégradante, Pas si blâmable, après tout, s'affirmait Benigno. Elle pouvait lui donner tout le bonheur qu'il avait autrefois désiré d'elle. Mais il ne lui dirait rien, ne lui laisserait rien soupçonner. Elle l'avait tant méprisé, si honteusement traité dans le bon temps, qu'il était capable de lui faire quelque fâcheuse avanie même aujourd'hui. Il allait profiter de la situation. Tant pis et tant mieux, après tout, ce n'était qu'une... Mais il ne comprit jamais par la suite comment il avait pu, à la même minute, se sentir le cœur si serré et se délecter si méchamment d'une affreuse joie triomphante et un peu ignoble. Chapitre 4. Il était depuis un moment dans la cabine de Pépa, une cabine spacieuse et presque élégante, et il ne se hâtait plus, retenu peut-être par une dernière délicatesse absurde, io lo creo. Il voulait, sans rien avouer de ce qui lui était personnel, causer, savoir, et ne se décidait pas à parler. Toutefois, comme il ne pouvait rester éternellement là, debout, l'air embarrassé, tout à coup malheureux, à passer en revue le mobilier, les rideaux grenats, la couchette numérotée, le large divan de velours allemand, les pliants de reps pareils à l'étoffe des rideaux, la toilette de métal émaillée jouant l'ivoire, la natte de manille du plancher, les penderies et la tulipe électrique, il passa son bras autour de la taille fine et robuste de la Timerfenia, s'assit avec elle sur le canapé d'un rembourrage louable, et dit au hasard, la première banalité venue, comptant bien que la chance, les hasards d'un bavardage quelconque, lui fourniraient un prétexte pour la questionner. « Il y a longtemps que tu voyages sur ces steamers ?» Elle le regarda comme avec une petite méfiance dans l'œil, puis reprit une physionomie indifférente et répondit « Oh, ce n'est que la seconde fois que je fais la côte. La première fois, j'avais pris passage sur le Sorlato. Ah, j'ai été alors moins heureux qu'aujourd'hui. Je ne manque jamais l'entrée d'un Patagon et je ne t'ai pas vu. » Il essaya de plaisanter. Des occupations professionnelles te retenaient sans doute hors du salon. Je te demande pardon, c'est toi qui m'as paru très occupé. Je t'ai fort bien vu, moi, sans attacher une importance énorme à ta présence, soit dit sans vouloir t'offenser, car tu étais en flirtation avec une jeune personne des plus agréables, et l'intérêt que je porte aux visiteurs est tout professionnel, comme tu le dis si affablement. Alors, tu étais un toboagondais, comme pas les autres, tu comprends, mais je n'oublie jamais une figure rencontrée. Benigno tressaillit. Il chercha vivement à lire dans les yeux de Pépa le sens de cette dernière phrase. Voulait-elle insinuer ? Mais non, l'expression des beaux yeux noirs était si détachée, à peine ironique et encore. Il se moqua intérieurement de sa propre présomption. Pépa s'exagérait un peu la puissance de sa mémoire, c'était tout. Il essaya cependant de l'obliger à trahir son intention, si elle en avait une, quelqu'une, en lui disant avec une certaine brusquerie « Cette précieuse faculté de reconnaître à première vue les géants les plus indifférents, tu ne dois pas avoir à l'exercer souvent au profit de tes compatriotes. » Oh, en effet, riposta-t-elle froidement, les Timberfellers sont très rares sur cette côte. J'en ai encore rencontré aucun, et le cas échéant, j'esquiverai la reconnaissance, car vraiment à Caracas, j'étais obsédé de visages familiers et narquois, me semblait-il. Ah, tu as habité le Venezuela ? Oui, plus de 10 ans. J'étais dans le commerce et j'ai longtemps gagné ma vie. Mais les affaires ont périclité, j'ai dû chercher autre chose. D'abord à la Havane, où les Canariens ne manquent pas non plus, hélas. Ensuite, dans ces régions-ci. Ah oui, je vois que ce n'est pas d'hier que tu as abandonné Tenerife. J'étais toute jeune quand je suis partie de chez moi. Et tu n'as jamais eu l'envie de retourner aux Canaries. Les yeux de Pépa brillèrent de colère, et ce fut avec une singulière énergie qu'elle répondit. Oh non, par exemple, Dios me libre. Oh, j'y ai trop souffert. Mon père avait été riche. Je n'ai jamais su au juste ce qu'il faisait, mais il avait eu de l'argent. Oh, de cela, ça, je suis sûr. Pourtant, il est mort ruiné. Il n'a laissé que des dettes. Alors, l'individu que je devais épouser s'est conduit avec moi comme un malandrin. S'il s'était encore contenté de me laisser là. Mais il a d'abord affecté de vouloir se charger de moi, tu comprends. Ensuite, il m'a jeté à la rue. J'en ai pris un autre, oui, un autre gredin, qui m'a emmené à la Havane, où il m'a oublié quand il a trouvé une place lucrative dans l'intérieur de l'île. Alors, tu vois, Caracas, puis encore la Havane, enfin cette maudite côte sur ce Lupanar Arouli. Allez, tiens, va-t'en me chercher du Reyes. Je veux plus parler de cela. Ils burent, et Pépa reprit comme si le colloque n'avait subi aucune interruption. Car tu n'es pas venu pour me confesser, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu attends? Benigno connut désormais dans son existence une demi-heure, une heure, qui sait, délicieuse et presque formidable. Elle était demeurée bien jeune. Pépa, la farouche et la suave, après tant de malheurs. Oh, le merveilleux corps forme et vibrant, durement et élastiquement plantureux, flagrant de fins et de fauves parfums. Chapitre 5. Il y eut une rumeur assez forte dans le Tumacobamba et le long du bord. Sous le hublot ouvert, des barques filaient avec un bruit de rames plongeantes et éclaboussantes. Ce bruit froidement sonore, déchirant, comme suivi d'une plainte soupirée qui se prolonge. Des voix montaient, ricanantes ou querelleuses, rauquement éraillées d'un dios alcoolique, impérieuses et insupportables criailleries de blancs intoxiqués, toujours agressifs, pressés, tourmenteurs et rageusement inquiets, à jeun ou en ribote. Grosses plaisanteries et anxieux glapissements de canotiers empêtrés ou railleurs. Et comme de lourdes sarabandes de pas précipités faisaient un tonnerre sur le pont, il fut évident que le Tumacombamba n'allait pas tarder à aller sur ses chaînes d'ancre. Benigno prit Pépa dans ses bras. Elle étreignit avec une violence qui parut la surprendre. Elle le regarda plus fixement que jamais, les yeux dans les yeux, de tout près, puis s'abandonna comme indifférente. Une minute plus tard, Reyes ouvrit brutalement la porte de la cabine comme sous le coup d'une poussée de colère, mais il se retourna vers la belle Tinerfeña et lui dit abruptement, hachant les mots. Veux-tu que je te libère de ce que tu peux devoir à bord et que je t'emmène à terre pour toujours? Le pays est affreux, mais je te ferai une vie possible. Elle sera en tout cas moins révoltante que celle que tu mènes sur ces infamies de boucheries à vapeur. Si tu te refuses à demeurer sur cette côte, je te conduirai où il te plaira, tout pour t'avoir à moi. Réponds vite, oui ou non? C'est non. Je ne puis pas. Maintenant, je reviendrai. Nous en reparlerons quand tu auras réfléchi en mon absence. Mais dis oui tout de suite. Je ne saurais plus à présent me passer de toi. Je te veux tout le temps. Alors, c'est oui, puisque je l'exige, puisque je le fais autant pour toi que pour moi. Mais réponds donc, ne m'exaspère pas. Oui, tout de suite, que je te traîne hors de ce sale bateau. Mais tu es donc sourde, aveugle et folle. Faut-il que je te dise tout? Je suis. Non, ne me dis rien. Je crois que tu as dû me connaître jadis, je m'en doutais. Mais ne me fais pas le chagrin de me dire ton nom. Ne comprends-tu pas que, quel que soit ce nom, je souffrirais de l'apprendre, de le réapprendre plus tôt. Allez, va-t'en, va-t'en. Je reviendrai, et alors j'aurai eu le temps de me faire une raison. Je te le promets, j'accepterai tout, après. Tu le jures ? Oui, oui, va-t'en. Benigno se trouva près de l'échelle, plus ivre de tristesse et d'espoir que de l'improbe alcool de Lincoln Pentagonia Company. Ce fut presque sans le voir qu'il regarda machinalement le spectacle trop connu du pont de Spardec au moment de l'appareillage, avec les boutiques du Rouf qui se fermaient et les indios qui hurlaient les réclamations ou s'en allaient fièrement avec leurs achats. Des pantalons, des cigares, des poules, des bottes, des casseroles, des chapeaux de soie ou des boîtes de conserve. Des veaux beuglaient, des moutons bêlaient en piétinant dans leurs boxes. Des dames légères de seconde marque et d'entrepont faisaient d'expansifs adieux à de nouveaux amis promptement devenus chers ou invectivaient d'un délicat client déjà en fuite. Il sauta dans la première lancha venue, qui partit aussitôt en longeant la longue haute coque noire et ventrue. Le Tumacobamba, sous pression, ronflait comme un énorme fourreau, râlait, vibrait, semblait trembler sur l'eau. Quand il passa près des cabines d'arrière, Benigno Reyes voulut contempler encore, à défaut de Pepa, les murailles de fer qui la contenaient, qui limitaient son actuelle existence, qui lui paraissait à lui comme embellie de la posséder, comme imprégnée et parfumée d'elle. Et au moment où le gros steamer donnait ses premiers coups d'hélice et faisait mousser bruyamment en épaisse et roulante écume l'eau visqueuse et lourde, déjà plus sombre dans le rapide crépuscule tropical aux enveloppantes gaz d'un bleu violâtre, il aperçut les traits déjà noyés mais reconnaissable à la cambrure de son corps d'une grâce unique, Pepa, Pepa Ramos penchée au-dessus de la lisse du couronnement. Elle le guettait donc. Il était enfin quelque chose pour elle. Il lui laissait un regret. Elle reviendrait sûrement et il pourrait, bien tard, la rendre heureuse, la délivrer des humiliants souvenirs d'un passé auquel il ne voulait plus songer. Et dans sa joie presque orgueilleuse, oui, vraiment, il se dressa dans la barque, se mit debout en dépit du tangage qui le secouait, lui faisait des jambes de caoutchouc, le menaçait d'une chute ridicule et périlleuse, et, dédaigneux du voisinage, des rameurs grossiers et sûrement ironiques, il cria de toutes ses forces à l'apparition « Hasta luego, Pepa !» comme s'il eût dû la revoir le soir même. Malgré tout ce qui venait de se passer entre eux, c'était la première fois qu'il s'adressait à elle en lui donnant son nom. Il attendit quelques secondes, et la voix de sa querida lui parvint, déjà un peu étouffée, bien que la distance fût encore assez courte. Adios, adios, Benigno Reyes. Adios, Benigno Reyes. Mais à quel moment avait-elle su qui il était? Sans doute quand il avait été trop tard pour le jeter dehors. Un pressentiment triste dissipa tout son bonheur. Elle avait dit adios. Le mot n'a pas en espagnol un sens aussi cruellement définitif que l'adieu français. Mais il prenait une signification très grave, répondant à l'impatiente exagération de son « hasta luego ». C'était sûr. Elle ne reparaîtrait plus et avait tenu à le lui faire bien comprendre avant son départ. Un instant après, il se rassurait en se figurant qu'elle avait obéi à une sorte de mouvement d'amour, à un désir de rendre la séparation moins longue, fût-ce de 5 minutes, en tâchant d'aller vers lui autant que le lui permettait son emprisonnement sur le steamer, en s'efforçant de le voir encore entre les mailles violettes du crépuscule. Qui l'obligeait à venir avouer qu'elle l'avait reconnu, alors qu'elle affirmait que la présence seule d'un compatriote lui était pénible? Toutefois, Reyes fit une entrée assez mélancolique dans Toboadongo, dont les lampes électriques ne brillaient pas encore. Des spectres d'indios erraient sur le quai, des chiens affamés grondaient. Il y avait comme un mystère menaçant dans l'air funèbrement velouté de nuit. Une brise presque froide soufflait, apportant une odeur de vieux goudron, de suif aigre, de vases, de cordes mouillées, de cucarachas, de bois moisi, des trous à rats. Une pestilence fiévreuse semblait s'éveiller dans l'obscurité. Puis un tramway passa, éclairé comme une énorme lanterne chinoise. Tout à coup, une clarté blafarde jaillit des hauts candélabres et les ruines habituelles apparurent. Benigno se sentit glacé par l'aspect morne de sa maison, qu'il avait naguère jugée l'une des plus riantes du pays. Il s'effraya de retrouver la déplaisante figure de sa vieille bonne indienne et fut saisi, pour la première fois de sa vie, d'un véritable accès de rage en découvrant son cheval dans la salle à manger. Il est bon de dire que cette présence indue était moins sacrilège qu'ailleurs, à Toboadongo, où les portes des écuries ouvraient généralement sur des pièces habitées. Mais cette fois, Benigno ne sut plus se contraindre au plus léger effort d'indulgence pour une incartade usuelle et tolérée dans tout le Sud-Amérique. Il chassa vers son box, non sans l'avoir vigoureusement épousté à coups de canne, le vénérable Palefroy, qui, plutôt ironique le vieux drôle, le cou allongé vers le plancher, les oreilles tombantes, ses gros naseaux écarquillés, soufflait et bavait dans la bouche béante du sacripant de Péon à tête de vacher. Ce dernier, affalé sur le sol, ivre-mort, tenait encore dans une main une étrille, dans l'autre un verre à moitié plein, dans lequel achevait de se noyer une forte araignée velue et noire. Reyes était si furieux qu'il leva le pied, mais, après une seconde de réflexion, il se contenta d'empoigner Aristobulo, l'indigne palefrenier, et de l'envoyer rouler sur la paille de l'écurie. Cela fait, il claqua les portes et s'enfuit au cercle, plein d'horreur pour la vie qu'il lui fallait reprendre. Oh, dans quelles navrantes circonstances il avait connu si tard sa première heure d'amour complet. Chapitre 6. Peparamos ne revint jamais à Toboadongo. Pendant plus de 2 ans, Reyes s'obstina, sans conserver le moindre espoir, à visiter les uns après les autres tous les Incas et Patagonians qui mouillaient dans l'affligeante rade. Il harassa de questions le personnel de chacun de ces paquebots, devint un objet de crainte pour les pousseurs commissaires et transforma la plupart des majordomos en bêtes fauves acharnées à sa perte. Ils droguèrent son vin, fourbirent ses fourchettes avec de la coloquinte, délayèrent du cirage dans son café. Mais il tint bon, jusqu'au jour où, ayant rencontré à bord de l'Alagueyo son ancienne amie, la Chola Rosa Huera-Rocha, il parvint à l'emmener à terre en lui promettant des colliers de piastres. Il crut se consoler avec elle pendant 3 mois, au cours desquels la fille de la vallée amazonienne vida ses armoires, l'injuria, le battit, se grisa en compagnie du péon et scarifia de coups de griffe le visage tanné de la bonne indienne en des luttes journalières. Elle finit par s'enfuir avec un mercanti chinois et plusieurs sacs de butin. Benigno, un instant comme soulagé et alangui par une mélancolie calmement désespérée, fut bientôt après son départ tourmenté de nouveau par le souvenir de Pépa, qui s'était, pendant les 12 semaines, pour ainsi dire endormi en lui. Il songea encore à réaliser tout ce qu'il possédait et à s'en aller très loin, peut-être à Tenerife, mais au bout de quelques jours de réflexion, ce projet s'évanouit pour ne plus reprendre forme. Il était parfaitement certain de ne pas retrouver sa querida aux Canaries. Elle avait manifesté avec netteté son intention de se soustraire à jamais aux commentaires de ses bien vieillants compatriotes, et sans Pépa, Tenerife ne serait plus qu'une sorte de cimetière de ses rêves. Ses parents étaient morts à présent, dans la jolie finca dont, tout gamin, il avait souhaité la possession et qu'il venait de faire acheter pour eux. Que deviendrait-il seul, sous l'ombrage comme endeuillé des filles et des tamaris, à la musique monotone des rivulets dans les bassins, perdu dans les hauteurs entre la tache bleue lointaine de l'océan miroitant tristement sous un lacis de branches et les cimes brunes qui vont rejoindre le massif du pic. Il ne fréquenterait jamais des gens qui pouvaient, un jour ou l'autre, sans méchanceté, par simple désœuvrement, par pénurie d'idées à exprimer, lui raconter sur Pépa telles anecdotes que le lent et presque inconscient travail de 2 générations de narrateurs aurait enjolivé de précieuses malpropretés. Or, Benigno, comme beaucoup de bons esprits de la bonne moyenne, vite fatigués de passer en revue leurs propres pensées, judicieuses sans doute, mais plus remarquables par leur qualité que par leur quantité, avait horreur de la solitude. Il remit donc son rapatriement au calende grec, se disant que plus tard, à une époque où son chagrin se serait usé par la durée, il se ferait peut-être que, la vieillesse menaçante, un affaiblissement de ses facultés intellectuelles, qui savait, pourquoi pas un doux gâtisme, l'amènerait à vouloir terminer son existence dans le décor où s'était écoulée sa vie d'enfant, à souhaiter de reprendre tout, en quelque sorte, au point de départ, avant les ennuis, les déceptions et les douleurs. Et alors, il y aurait encore des paquebots pour le retransporter chez lui. En attendant, il était sans doute préférable de tenter un nouvel avatar. Il y songea des semaines et des mois et se vit successivement, dans un laborieux effort d'imagination, marchand de l'art à Chicago, squatteur en Australie, colon à Bornéo, approvisionneur de navires en Nouvelle-Guinée, époux acquéreur d'une princesse polynésienne pourvue d'un royaume de quelques 1000 carrés. Cette dernière vision aimanta de nouveau sa pensée vers la fausse héritière des Incas, toujours disponible malgré les cavernes pleines d'or, les mines de rubis, de saphir, d'émeraudes et de diamants roses, que lui prêtait l'inépuisable et facile générosité Toboa Donguez. Il n'y avait pas à dire, les parents jetaient un froid. Et Benigno reparut dans le salon vert bouteille sans que la petite idole s'en aperçût de façon bien positive. Mais Don Prudencio et Doña Primitiva n'avaient pas facilement pris leur parti de la désertion d'un gendre présomptif aussi enviable, et ne s'était lassé de le harceler d'attentions gracieuses que le jour où Benigno avait nettement sommé le chef de la brune communauté d'aller faire trembloter ailleurs les vastes et agaçantes ailes de son inamovible chapeau de jipijapa. Ils accueillirent son retour en pleurant, et leurs larmes ne leur coûtèrent qu'un effort des moins méritoires. Reyes devint la consciente et résolue victime de leur manœuvre matrimoniale. Il en inventa même à leur profit et tomba de l'air le plus innocent que l'on pût rêver dans les panneaux qu'il avait machinés pendant presque tout seul. C'est eux qui l'épousèrent, bien plus que Soledad, parfaitement dédaigneuse des conventions sociales et aussi émue par son propre mariage que par la mort d'un chat de Perse ou l'accession de Cayetano Borracho, tout botté, au trône de Chamahualcampa. Le lendemain de ces noces trop paisibles, le Tinelfegno savait, à ne pouvoir s'y méprendre, qu'il avait lié sa vie à l'existence purement mécanique d'une sorte de joli automate dont il ne possédait même pas la clé. Jamais Soledad ne le contraria. Jamais elle ne lui fit mauvaise figure, ne parlant guère qu'à ses parents et encore. Jamais elle ne lui exprima, directement du moins, ni un souhait personnel, ni une velléité d'opposition. Elle se contentait de le subir avec une exaspérante bonne volonté ennuyée. Elle ne compta bientôt plus pour lui. En revanche, comme Benigno était devenu à peu près indifférent à tout ce qui pouvait lui arriver après les lamentables dénouements de ces trois histoires d'amour, il tomba sous la coupe de Donia Primitiva, qu'il finit par craindre et par aimer comme aiment les chiens battus, parce qu'elle ne le maltraitait pas toujours. Elle se substitua résolument à sa femme, pas en tout par bonheur, bien que les Toboadongais, ses mauvaises langues, et lui fit connaître, en même temps que les raffinées persécutions de la belle-mère, les sauvages et perpétuels ululements de l'épouse incomprise, réclamatrice, méfiante, odieuse de brutale jalousie. Dame, puisque Soledad ne voulait pas se défendre, il fallait la protéger malgré elle. Cette consciencieuse mégère le bouscula, l'ahurit, lui imposa des habitudes, le nourrit à sa guise d'après des systèmes aymara et quichua, rogna sur son argent de poche, le vêtit selon son goût à elle, le transforma en caricature, en passif et désolé et reconnaissant chien savant qui faisait le beau pour qu'on le laissât dormir après. Don Prudencio, dont le mutisme devenait presque jovial, maintenant qu'il accumulait ses revenus sans en distraire un quarto, et réalisait même une économie chaque fois qu'il fumait un cigare dit « de luxe » ou s'assimilait une copita d'un vitriol supérieur, dispensait à toute la maisonnée d'éblouissants sourires indiens pleins de significations profondes. Son jipijapa finissait par ressembler à l'auréole d'un saint tropical très laid et un peu canaille, mais joyeux en dedans. Il y eut sur la côte de Tapapaca une famille exemplaire. Chapitre 7. Un jour que Benigno, décidé à dire adieu aux affaires, mais enragé de complaire à Donia Primitiva, peu désireuse de laisser des créances en souffrance, avait entrepris le court voyage de Toboadongo à Iquique à seule fin de réclamer des sommes au dernier de ses débiteurs, il entra, sans trop savoir pourquoi, mais poussé par un instinct dont il ne fut pas le maître, dans le grand bazar national y parisiano de Don Elogio Fuencarral Iberino Ngarraga. Il connaissait un peu le propriétaire de ce pompeux établissement. Toutefois, le besoin de serrer la main loyale et velue de l'industriel n'était pas assez impérieux en lui pour l'attirer seul vers les étalages de vaisselles à fleurs, de pots de pommade, de ceintures de gymnastique, de lunetterie et de pantoufles pseudo-turques. Don Elogio lui parut bizarre, contraint comme ennuyé de le voir. Priest ne s'en préoccupa guère, et, pour justifier en quelque sorte sa visite parfaitement inutile, marchanda certains portefeuilles, le seul qui fut noir et de fabrication décente au milieu d'une grosse de ces vagues marocains. « De vrai, Don Benigno !» s'écria le distingué négociant. « Mais c'est une chose merveilleuse !» C'est vous qui me fournissez une transition pour vous parler d'une légère ou d'une vénielle négligence que j'ai à cœur de réparer. Voyez, C'est le seul article de seconde main que renferme mon petit Louvre, si connu dans toutes les Amériques, pour ne vendre que des articles admirablement établis et neufs. Mais ce portefeuille était en si bon état que je n'ai pas cru devoir être assez cruel pour en priver l'un de mes innombrables clients, sous le prétexte qu'il avait servi, oh, si peu, sans doute. Regardez, pas une éraillure. Et le cuir de première qualité n'éternit nulle part, frais comme l'œil d'un enfant. Et savez-vous que c'est par une interposition de la divine providence que l'objet vous plaît ainsi, tout de suite, à peine entrevu? Car, et la grosse voix gutturale de Eulogio prit un ton sacerdotellement confidentiel, car, mon cher ami, ce portefeuille vous était vraiment destiné par cette providence à vous seul. Benigno crut le Fuencarral victime d'un subit accès de folie, peut-être dangereuse. Il fouilla dans sa poche un revolver. Mais Don Eulogio reprit avec beaucoup de calme, non cependant sans une faible ou très faible nuance d'embarras. Bien, je l'ai acheté, ce portefeuille, au Callao, à l'agence des Patagons, avec tout un lot de robes, de bijoux et autres babioles de l'équipage d'une señora passagère décédée, il y a quelques 6 mois, entre Guayalville et Païta, sans héritier connu. Oh, j'avais retiré distraitement de ce portefeuille une enveloppe et un paquet de photographies que j'avais placées dans le premier tiroir venu, sans les regarder. Mais voici peu de semaines de cela, cherchant un jour une vieille facture ou un compte de frais, j'ai remis la main sur l'enveloppe. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction en la trouvant adressée à Don Benigno Reyes de Tomoadongo. Oh, j'aurais dû vous l'envoyer immédiatement, mais j'ai craint, ou plutôt je me suis dit, oh, Don Benigno ne sera pas sans nous favoriser de l'une de ses bienvenues et flatteuses visites avant qu'il soit longtemps. Et j'ai attendu. Attendez, je vais vous chercher l'enveloppe et le paquet de portraits. Développant un papier de soie, Reyes découvrit une dizaine de portraits de Pepa Ramos, tels qu'il l'avait vu à leur dernière inoubliable rencontre. Puis, tout angoissé, il ouvrit l'enveloppe qui portait son nom et son adresse. Elle renfermait une autre photographie de Pepa, mais de Pepa à 16 ans, de la Nina qui lui avait si cruellement ri au nez par un soir rose là-bas, à Tenerife. Il retourna la carte. Rien, pas un mot d'écrit. Qu'avait-il désiré lire, là? Et il s'absorba dans la contemplation des traits adorables de celle qui avait empoisonné sa vie, inconscient de la curiosité de Fuencarral Iberino Garraga. Brusquement, il s'imagina que le portrait s'animait. Un rire joli et féroce distendit la bouche exquise, le rire du soir détesté. Les mignonnes dents apparurent lumineusement blanches, mais la face s'émacia, les joues se creusèrent, les yeux s'éteignirent, puis se fermèrent, et Benigno, le plus en face de lui, qu'un beau visage de morte un peu défiguré par un rictus douloureux. Quand Don Eulogio lui eut suffisamment bassiné les tempes de vinaigre et d'alcool, Reyes se leva d'un bond et voulut s'enfuir dans la rue avec le portefeuille et les portraits. Il allait dépasser le seuil du grand bazar quand la voix de Fuencarral s'éleva, psalmodiant d'un ton de plaintif reproche « Hombre ! Le porte-carte vaut 3 pesos. » Benigno revint sur ses pas. « Et les retratos, voyons. Oh, je ne veux pas surfaire. Disons 3 autres pesos. Les éminentissimes photographes de Lima ou de Santiago de Chili ne livrent jamais la douzaine à moins de 3 piastres fortes. J'y perds. Ben, qui ne ferait un sacrifice pour vous obliger. Alors, nous dirons en tout 7 pesos, les cartes étant dorées sur tranche. C'est trop juste, ricana le tinéal feignant, qui paya et courut se réfugier à l'hôtel, qu'il ne quitta plus jusqu'au départ du vapeur chilien. Il ne voulait de sa vie remettre le pied sur un patagon. Sa gratitude pour les sévères gâteries de Doña Primitiva grandit encore, et son chagrin s'humeua bientôt en abrutissement. Il battit, d'abord par ordre, puis pour son propre plaisir, les gamins à face de souneux qui disloquaient la sonnette, s'intéressa aux légendes quichuas de sa belle-mère, but du pisco, voire de la chicha avec elle, l'aida bientôt à perpétrer de hideux travaux prétendus artistiques où des plumes multicolores sont combinées avec des graines desséchées, des perles de verre, de petits coquillages et même avec des écailles nacrées et translucides provenant de certains poissons rares et hauts cotés. À le voir si raisonnable, Soledad le prit jusqu'à un certain point en affection, peut-être un peu tard. Il ne sortait presque plus, et dans la pénombre d'une grande pièce nue où le soleil n'entrait que sous forme de minces nappes jaunes tombantes, pulvérulentes d'atomes glissant des interstices des jalousies, s'étiola doucement entre les éternels vieillards et la sournoise petite idole, toujours occupée de minutieuses et niaises besognes. Il en vint à oublier l'espagnol, à ne plus employer en d'interminables bavardages pleins d'étrangetés saugrenues que le dialecte quichua, cher à sa belle-mère, s'imprégna du sens occulte de tels contes de l'autre monde, où des dieux de cuivre rouge aux chevelures d'astres, aux claquantes ailes de bêtes antédiluviennes, tourmentent avec une profonde et naïve méchanceté d'inquiétants microcéphales ahuris de frayeur, et finit par ressembler grotesquement au souriant placide et grimaçant Don Prudencio, ce dont les deux femmes lui furent reconnaissantes comme d'une preuve d'amitié. Que ce fut lente infiltration des trois âmes qui cernaient la sienne, ou atavisme de vieil Atlante, plus vieux que les Guanches et secrètement apparenté aux races brunes de l'hémisphère occidental, il éprouva de plus en plus le bizarre et obscure impression de sentir s'éveiller au fond de son être une nature mystérieusement indienne. Il se complut en de longues songeries fantasques, dont il n'eut plus bientôt aucune honte, entrevit des soleils qui parlaient, faisaient des bouts sauvages en débitant des prédictions horribles et sibyllines, chevaucha des vautours d'or qui l'emportaient vers des cieux aveuglants, tout flaves, mais tout rouges aussi du sang, de quelles hécatombes, s'anéantit à demi en des océans de lumière trop fortes, trop glorieusement stupéfiantes. Par les après-midi brûlants où l'âcre souffle du port le suffoquait, l'empoisonnait d'une haleine de peste, il rêva aux fraîcheurs ombreuses des nécropoles des hauts plateaux baignés d'un air si violemment bleu que les crépuscules mêmes des voûtes souterraines se teintent de sombre saphir, se fit ridiculement et béatement accroupi dans une grande jarre funéraire comme les bienheureuses momies du Carmanca et des Huaras qui sourit depuis 30 siècles. Et au rare moment où lui revenait un peu de claire conscience, il comprenait, le cœur serré, que le jour où, sur l'océan glauque, lui était, de façon si troublante et pour l'unique fois, réapparue sa côte natale, lui annonçant l'approche de l'aimé de ses jeunes années, avait été le jour de ses adieux à la terre, à sa race, peut-être même à sa propre personnalité.